BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
Bienvenue à tous dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, avec le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble pendant une heure pour faire passer l'entretien HEC à une personnalité avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et aujourd'hui notre invité c'est il est professeur, il est économiste, il est banquier, il est directeur général de la Brette, c'est Olivier Klein. Vincent.
Merci Edwige, et donc c'est une interview, je vous le rappelle, qui est multicanal puisqu'on la retrouvera dans les colonnes de Challenge, mais aussi sur les sites de challenge.fr et de BFM Business, et puis le week-end sur l'antenne de BFM Business également. Alors Olivier Klein, merci d'être avec nous.
Bonjour.
C'est 1,3 million de clients en France, 200 000 sociétaires, 6 000 collaborateurs, un produit net bancaire de 1,3 milliard en 2020 et en 2021
1,453 milliard.
Eh bien, donc ça progresse. Et en plus, ce que évoquait Edwige, c'est que vous êtes effectivement un auteur, puisque vous avez publié aux éditions Erol, Crise et mutation, petite leçon bancaire.
Alors, vous le savez, Olivier Klein, vous connaissez un peu cet exercice, j'imagine. Vous savez, il y a plusieurs parties. Il y a quatre parties. Il y a une première partie actualité. Et Dieu sait que l'actualité, en ce moment, elle est très forte. Il y a une partie business. Il y a un micro-trottoir avec des étudiants d'HEC. C'est quoi être banquier, c'est quoi la Brette, et puis des questions des alumni. Et en conclusion, on parlera de vos leçons, petites leçons bancaires. Mais tout de suite, les questions d'actualité.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Les questions d'actualité, évidemment, elles sont liées à ce qui se passe, à ce conflit en Ukraine, avec cette guerre même entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences. Conséquences, on va le détailler dans un instant, conséquences économiques, mais conséquences d'abord boursières. On a vu la chute de toutes les bourses, l'impact que ça peut avoir. Est-ce que jusqu'où ça peut aller, Olivier Klein ?
C'est d'abord un drame humain, évidemment, mais on n'est pas là pour parler du drame humain, donc mais il existe très fortement. On va se concentrer là sur la bourse et puis passer à l'économie, même si évidemment les deux choses dernières sont liées. Moi, ce qui me semble, c'est que la bourse était assez surévaluée auparavant. Voilà. Un signal tel qu'une guerre envoie immédiatement quelque chose au marché qui est qu'il faut dégonfler un peu la bulle. Bon.
Donc c'est une correction.
Donc c'est aussi une correction. C'était une correction attendue. On voyait bien déjà qu'en janvier, la volatilité était très forte, ce qui laissait comprendre que la bourse était fragile. Là, évidemment, on a une précipitation du sujet. Et la question, c'est comme on ne sait pas comment peut s'arrêter cette guerre, ni jusqu'où elle peut aller. Évidemment, les bourses sont très inquiètes, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le plancher est atteint ou qu'il n'est pas atteint. Difficile à dire.
Et dans le type de sanction qui a été pris, parce qu'on est effectivement dans un conflit, est-ce que vous avez le sentiment que pour ce qui concerne votre secteur, les sanctions financières, elles ont été bien calibrées ou est-ce qu'elles ne vont pas assez loin ?
Elles sont fortes jusqu'à présent et les différentes accentuations qui ont eu lieu les derniers jours font que c'est fort. Nous, alors d'un point de vue très pratique, on est obligé d'ajuster pratiquement chaque jour, hein, parce qu'il faut, on a des listes d'interdictions, sur le type de choses qu'on peut financer ou pas, soit sur les gens. Et il faut absolument qu'on actualise ça au jour le jour, ce que l'on fait. Sont quand même des mesures très fortes. On peut pas nier. Ça perturbe, et c'est normal, c'est fait pour cela, l'ensemble des relations qui peuvent exister économiques entre l'Union européenne, par exemple, et l'Ukraine et la Russie. Donc,
vous avez identifié le nombre de clients dans la Brette. La Brette, c'est un peu partout, on le verra ensuite. Enfin, c'est aussi beaucoup en région Île-de-France. Est-ce que vous avez identifié le nombre de clients russes susceptibles, justement, de voir couper leur...
Si on parle du nombre de clients particuliers...
Oui.
C'est un millier, donc c'est pas beaucoup pour nous, hein. Mais il faut bien le suivre, il faut bien voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui, des plus grandes ou parfois plus petites, pas les toutes petites, mais ont des liens d'exportation, par exemple, ou d'importation. Pas seulement les négociants internationaux, mais aussi des entreprises industrielles. Et là, évidemment, ça les bouleverse aussi leur chiffre d'affaires.
Est-ce qu'une banque, expliquez-nous, puisque vous êtes banquier, on va en profiter, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'une banque peut vivre sans appartenir à ce fameux réseau SWIFT ?
C'est très difficile. Le réseau SWIFT, c'est le réseau international, donc ça peut étouffer des banques de ne pas en faire partie. Alors, on sait que les Chinois ont développé un réseau alternatif, les Russes n'étaient pas branchés dessus, ou très peu, donc je pense qu'ils vont essayer de déplacer leur branchement sur la Chine, mais la Chine n'a pas non plus envie de subir les interdictions occidentales. Donc ça va être quand même compliqué pour les banques russes, même si la banque centrale russe a accumulé des réserves officielles très nombreuses ces dernières années.
Et en euros.
Et en euros notamment. Et là, elle se fait geler les euros qui sont placés dans les banques occidentales. Et donc, ça va être un problème financier majeur pour la Russie.
Mais pour terminer sur l'impact strictement financier, on parle de 800 millions de risques sur l'Ukraine et la Russie. C'est pour la Bred, pour l'ensemble du groupe.
Alors, comment
vous gérez ça?
Alors, c'est pour l'ensemble du groupe BPCE. Du groupe BPCE, bien sûr. Pour la Bred, ça dépend comment on le compte. Nous, on a du financement de négoce international, on a une banque à Genève qui est spécialisée là-dessus, et on a 30-40 millions d'encours sur des c'est ça qu'il faut bien voir, sur des matériaux ou des matières premières agricoles éventuellement, qui étaient soit en train d'être achetés en Russie, soit en train d'être livrés. Naturellement, on s'interroge sur ce que cela va devenir. Mais nous finançons des groupes qui ne sont pas russes. Et donc ces groupes, normalement, nous rembourserons, sauf si eux-mêmes sont en mauvaise santé, hein, ou qu'ils sont mal pris par cette nouvelle donne. Donc voilà, et au fond, pour le groupe BPCE, c'est relativement petit par rapport à l'ensemble des groupes français ou des groupes bancaires internationaux.
Élargissons maintenant, puisque vous parlez de matières premières tout à l'heure, effectivement, on voit bien que cette crise a beaucoup d'effets sur le cours, pas simplement du pétrole, mais d'un certain nombre de matières premières, et qu'on a des craintes sur l'inflation et d'ailleurs sur la croissance. Vous qui êtes professeur, qu'est-ce que vous anticipez justement sur l'activité mondiale à partir de cette crise ?
Il y a deux choses qui vont se produire. C'est des entreprises de l'Union européenne qui avaient des liens directs et des exportations en Russie. Et on a des grandes entreprises comme des moyennes entreprises qui vont avoir une perte partielle de leur chiffre d'affaires. Il faut qu'elles recomposent leur chiffre d'affaires différemment dans le monde.
Mais l'impact sur la croissance, vous le voyez.
Et du coup, ça va ralentir le chiffre d'affaires de ces entreprises, donc la croissance globale.
Oui.
Ensuite, on aura un effet sur la croissance lié à l'inflation.
Quoi, c'est un 1%?
L'inflation était déjà bien partie, honnêtement, ces derniers temps. L'inflation était bien partie ces derniers temps. Là, on va avoir un regain d'inflation considérable parce que ça joue sur beaucoup de matières agricoles comme de matières premières. Et tout cela va jouer sur les prix à la construction, à la fabrication. Donc oui, on peut penser dans un premier temps que l'effet peut-être d'un pour cent environ de moins de croissance que ce qui était prévu antérieurement.
Est-ce que ça va entraîner, vous le pensez, peut-être un changement de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, peut-être un relèvement des taux? Alors, on a vu des déclarations en disant que ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. Et est-ce que pour vous, le niveau d'inflation devient tel qu'il faut quand même peut-être regarder de plus près?
Alors, c'est un sujet que j'enseigne, donc c'est
sujet...
Voilà.
Oui.
En réalité, assez complexe, parce que auparavant, juste avant la guerre, on avait un taux de croissance qui était quand même très bon. Certes, il faiblissait un peu par rapport à l'année dernière, mais c'est normal, on avait enlevé les couvercles de l'économie rebondissait de façon majeure. Et ensuite, tranquillement, ça allait se normaliser vers un taux de croissance potentiel dans les 2-3 prochaines années. Mais on avait encore, en 2022, un taux de croissance élevé. Il était donc normal, alors que l'inflation se développait beaucoup, et ce, de façon à l'opposé de ce qu'on avait connu pendant des décennies, il était normal que les banques centrales commencent à durcir leur position.
Et donc
et maintenant, pour les banques centrales, ça va être encore plus compliqué. C'était difficile déjà de durcir les positions parce que l'endettement des pays avait quand même énormément monté, notamment l'endettement public. Ce qui fait que les politiques monétaires avaient la difficulté d'avoir à durcir leur position en éventuellement prenant le risque d'insolvabiliser quelques pays. Donc il fallait y aller doucement. Là, la complexité vient du fait que il y a l'inflation, il y aura plus d'inflation encore, mais il y aura probablement stagnation, ou en tout cas moins de croissance, ce qui ressemble à une situation de stagflation. Mmh. Et les banques centrales qui n'ont pas réagi à la stagflation dans les années début des années 70, en réalité, ont évidemment été obligés de se rattraper à la fin des années 70, début des années 80, en levant beaucoup leurs taux pour lutter contre l'inflation. Donc, je pense qu'il faut normaliser les politiques monétaires aujourd'hui, mais doucement, tranquillement, et voir ensuite s'il faut les rendre restrictives. Ce n'est pas le moment de les rendre restrictives, mais normaliser, oui.
Et les entreprises en elles-mêmes, elles ont connu le Covid, on a le sentiment qu'elles s'en sont pas si mal sorties. Vous, au travers, effectivement, de tous vos clients entreprises, quelle est la situation de trésorerie globale des entreprises françaises?
En moyenne, elles sont très bonnes. On a des très belles situations de trésorerie, les entreprises vont rembourser leur PGE tranquillement. Il y a celles des secteurs plus difficiles où il faudra étaler un peu plus. Mais la situation de trésorerie, globalement, est très bonne dans les entreprises en France pour le moment.
Et il n'y a pas de défaut de PGE, là, toujours de prêt garanti par l'État? Toujours pas.
Pour le moment, toujours pas.
Donc la situation, elle est plutôt bonne.
Oui,
honnêtement. So far, so good, comme on dit.
So far, so good.
Merci. Maintenant, c'est le brief de Bain. Puis après, la deuxième partie de cet entretien HEC, ce sera les questions business.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Ada Di Marzo. Vous êtes donc la directrice générale de Bain à Paris. Et puis, vous êtes une experte de la practice finance. Ça va pas être un brief facile parce que non seulement vous avez un grand patron de banque, mais vous avez également un prof à HEC et un auteur de bouquins. Donc, pour le pitch, on attend bon courage.
Merci c'est beaucoup. Ravi d'être avec vous et merci d'avoir augmenter la pression pour cet entretien. Bonjour Olivier, ravi de vous avoir.
De même.
Aujourd'hui, j'aimerais vous amener probablement à vous exprimer sur des trois thèmes d'actualité pour le secteur bancaire. Vous faites partie d'un groupe BPCE qui est un acteur primaire de l'économie française, qui finance plus de 20% de l'économie française, 36 millions de clients. Vous dirigez une des entités les plus dynamiques du groupe, la Pred. Et vous avez entamé depuis plusieurs années la transformation de votre banque. Le premier thème de discussion, ça sera plutôt l'évolution du modèle de banque. On sait que vous êtes confronté à l'émergence de nouveaux acteurs qui utilisent la technologie, la data, les algorithmes. C'est là, ça pose deux défis majeurs pour vous. Le premier, c'est d'être aussi bon que ces gens-là, notamment dans la rapidité d'exécution, dans l'expérience client fluide, dans la capacité à permettre une opérativité très élargie. Et l'autre côté, en même temps, il faut être prêt quand il le faut à donner du conseil, un conseil qui soit personnalisé et pertinent. Et on sait qu'aujourd'hui, on va vers un modèle où la banque se définit pas forcément par la densité de son réseau, mais par l'accessibilité et la pertinence du conseil, peu importe quand on en a besoin. Et du coup, par rapport à ça, j'ai bien aimé votre définition de la Bred, la banque sans distance. Comment vous allez incarner ce nouveau modèle de banque? Ça sera le premier thème. Le deuxième thème, c'est plutôt lié à l'actualité, la gestion de l'épargne dans des temps incertains. On a vécu la pandémie, on voit l'inflation remonter, on a une grosse volatilité sur les marchés financiers qui est portée par des événements comme ce de conflit en Ukraine. Tout cela n'a fait que structurellement augmenter la nécessité d'avoir un conseil qui est pertinent, qui est au bon moment et qui rassure les clients sur l'orientation de leur choix d'épargne. Deuxième thème de discussion pour vous, c'est comment la Bred là-dedans va s'assurer que le conseiller reste l'interlocuteur privilégié pour les discussions sur les besoins financiers des clients. Et troisième thème, c'est l'engagement RSE du secteur bancaire. Je pense que globalement, la sensibilité du grand public a fortement augmenté l'exigence. On connaît à quel point le secteur bancaire a joué un rôle clé dans la tenue de l'économie. Quand on interroge nos clients, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de clarté. En tout cas, ils ont peu de visibilité sur ce que la banque fait concrètement en termes d'engagement RSE. Vous faites partie d'un groupe mutualiste qui a la chance d'avoir dans l'ADN des valeurs de responsabilité sociétale. La question, c'est comment la Bred, au sein de ce groupe, va non seulement capitaliser là-dessus, mais aussi, je dirais, aller au-delà, vu les exigences qui montent.
Bon, vous avez deux minutes pour répondre, voilà. Donc allez-y. Non.
Pendant les deux heures prochaines.
Ouais. Alors, non, mais c'est des gros défis,
oui,
effectivement.
On va parce qu'il y a beaucoup de sujets. Oui. Premier sujet. Je répondrai par une pirouette, mais je vais approfondir tout de suite. Hein. La Bred ne sera pas un modèle, elle est déjà en train de faire ce que vous dites. Et ça fait presque 10 ans qu'on le fait. Autrement dit, on a bien compris qu'il y avait des risques de désintermédiation. Ils sont un peu moins forts que ce que l'on pense en général, de mon point de vue, à condition qu'on le gère bien. Autrement dit, il faut bien voir que les banques ont des données, elles aussi, sur les clients, exceptionnelles. Et que si elles les utilisent bien, proprement, naturellement et de façon totalement déontologique, on a une capacité à agir vis-à-vis de nos clients et de les aider à bien conduire leur projet de vie, leur projet d'entreprise, etc., qui est absolument remarquable. Et moi, ça fait des années qu'on fait de l'intelligence artificielle pour aider les conseillers à utiliser les données de leurs clients et des clients semblables pour regarder les proximités, l'intérêt, etc., pour qu'ils puissent mieux préparer leur rendez-vous, leur entretien, et être plus utiles aux clients, et avoir la meilleure valeur ajoutée. La deuxième chose, ça fait maintenant 8 ans au moins que j'ai augmenté de 40% le budget formation. Alors on en parlera d'ailleurs en liaison avec HEC pour certaines parties, mais 40% d'augmentation du budget formation. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui va faire la différence entre une banque en ligne purement Internet et la Bred, par exemple ? Et c'est très simple. C'est que la banque en ligne purement Internet qui se veut low cost, par construction, elle n'a pas de conseiller. Parce que si elle avait des conseillers, elle ne serait pas low cost. Voilà, donc je vais vite. Mais
on va y revenir dans un instant.
On va y revenir aussi. Mais c'est fondamental, business, naturellement. Donc il faut être aussi bon qu'eux sur le digital, aussi bon qu'elle, évidemment, sur tout ce qui est traitement des données. Mais la seule façon de se différencier et de conserver nos clients, et la réalité, c'est qu'on les conserve et qu'on les augmente en plus chez nous, c'est qu'on fait et on a développé le conseil de façon à accentuer la valeur ajoutée et le temps de conseil. C'est pour ça qu'on fait de la banque 100% sans distance, parce qu'on le fait d'où veut le client, mais aussi on fait des agences 100% conseil, c'est-à-dire que
juste peut-être un point sur la RSE, parce que ça c'est aussi une question importante.
Très bien.
Donc et on reviendra sur la banque sans distance, quand, sans pour problème. Reprendre votre
l'épargne,
slogan.
Un mot simplement sur l'épargne, je ne veux pas l'oublier, mais on est sans arrêt, grâce à la formation, grâce à toutes les filières qu'on a organisées pour conseiller le mieux possible en épargne, parmi d'autres choses. C'est un ensemble, et pas, c'est l'épargne, l'assurance, les crédits qui font l'ensemble. Et on a développé des formations, des spécialisations, des segmentations de clientèle pour qu'on ait les meilleurs conseillers en face, etc., etc. Ça, c'est un travail de fond énorme. Pour autant, on n'a pas réduit le nombre d'agences, mais on garde ça pour tout à l'heure sans doute. Donc, nous, on n'oppose en rien le digital à l'humain, au contraire. Mais il faut investir beaucoup sur l'humain. D'accord. Et donner le digital pour l'humain.
Olivier, pour la RSE. Il faut qu'on conclue parce qu'on a
votre séquence business. Sur la RSE, vous l'avez très bien dit, les banques mutualistes et coopératives ne sont pas propriétaires de la RSE, mais ça fait longtemps qu'elles le font. Pourquoi ? D'une part, parce que comme on est implanté dans chaque région, on est en osmose avec nos régions. On est en osmose avec les gens qui vivent dans ces régions. On a besoin que la région aille bien pour que la banque aille bien, et les régions ont besoin que la banque aille bien pour que la région aille bien. Et donc cette osmose, elle fait partie du fait de bien faire notre métier de banquier, d'être bien implanté, de ne pas trop réduire les réseaux, hein, au contraire. Et aussi la RSE en plus, d'abord c'est bien faire son métier, et localement. Deuxièmement, c'est évidemment, nous par exemple à la Bred, on a choisi la culture, parce que c'est un facteur de lien social, j'en finis là, et on a choisi l'égalité des chances. Donc on fait beaucoup de choses sur l'égalité des chances. On le fait d'ailleurs avec HEC pour partie, mais pas que. Et on fait beaucoup de choses sur l'égalité des chances, mais ça fait partie aussi, probablement, du lien social et de la capacité que nous avons en tant qu'entreprise, citoyenne en l'occurrence, d'avoir cet engagement sociétal. Donc oui, on fait beaucoup de choses, et on les communique peut-être pas suffisamment, mais on fait beaucoup de choses.
Merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez fait un peu notre rôle, hein, quelque part.
Oui.
Vous avez posé des questions, mais bon, voilà. Merci beaucoup à Dadi Marlou, donc à Bain et compagnie. Mais les questions se poursuivent. Questions business, qui vont un petit peu se recouper, forcément, parce que la banque sans distance et la banque digitale, c'est quand même des grandes ruptures de votre métier de banquier.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
On est toujours en compagnie d'Olivier Klein, donc directeur général de la Bred. Olivier Klein, c'est la séquence business. Alors, on va reprendre un tout petit peu des thèmes qu'on a abordés. Mais malgré tout, on a bien vu qu'avec cette crise de la Covid, la digitalisation de toute l'économie a été très profondément accélérée. Donc, ça change. On peut se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin d'un réseau bancaire? Vous, votre réponse, elle est claire. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué. C'est de dire, voilà, c'est la banque sans distance. Donc, pourquoi vous avez de telles convictions, de telles certitudes presque, qui vont à l'encontre des autres?
Parce que je crois fondamentalement que la banque, ce n'est pas que la banque transactionnelle, celle qui fait qu'on fait les virements, qu'on reçoit de l'argent, qu'on en paye, etc. Et ça, c'est une partie de la banque. C'est la partie d'ailleurs automatisable de la banque. C'est la partie digitalisable, la plus simple. Et c'est ce que font les banques Internet pure player, sans aucun conseiller à côté. On l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est une petite partie de l'univers de ce qu'attendent les clients vis-à-vis des banques. En réalité, ce qu'ils demandent le plus tout le temps, c'est d'avoir un conseiller stable, d'avoir un conseiller de bon niveau, qui l'accompagne dans le temps, etc., etc. Donc, la réalité, c'est que la banque, c'est une relation longue et qu'elle a un rôle économique et social à jouer parce qu'elle assure une relation longue dans l'accompagnement des projets de vie et des projets d'entreprise, oui, de chacun, que ce soit des entreprises ou que ce soit des particuliers, naturellement. Cette capacité à accompagner nécessite de l'humain pour comprendre les choses, pour les analyser. On peut céder, on doit céder des datas pour améliorer encore notre compréhension, pour apporter encore plus de valeur ajoutée dans notre compréhension. Mais ce n'est qu'une aide, ça ne remplace pas le jugement.
Oui, mais Olivier Klein, vous seriez au conseil d'administration de la Société Générale, qui investit à fond sur Boursorama. Qu'est-ce que vous lui diriez au moment où, effectivement, il a été question de reprendre ING, et hop, il rachète cet ensemble de portefeuilles de clients digitaux. Est-ce qu'effectivement, vous pensez que c'est une erreur, quand on est une grande banque, d'aller compléter son offre par une offre digitale?
Je ne me permettrai pas de donner conseil moi-même à la Société Générale ni à d'autres.
À une banque capitaliste.
Non, mais même. Ce que je peux simplement dire, c'est que il y a une tendance à penser dans l'opinion publique que les réseaux c'est fini, que le digital va remplacer l'humain, etc. Je pense que fondamentalement, il faut bien réfléchir à l'essence même de son métier. Et que si on réfléchit bien à l'essence même de son métier, on est capable de distinguer cette essence, ce qui est permanent, ce qui rend ce qu'on fait utile, des changements, des modifications profondes, des transformations profondes que l'on vit, dues notamment à la révolution technologique qui induit des comportements qui varient également. Si on est capable de bien comprendre cela, alors il faut protéger l'essence. Et en même temps, il faut assurer les modifications, les transformations suffisamment en amont pour pas que ça devienne des drames et justement pour pas qu'on vive des disruptions. En clair, je crois qu'une banque comme Boursorama peut vivre sur la bourse. Je pense aujourd'hui qu'il n'y a
pas que la bourse, hein, du reste.
Je sais, mais c'est pour ça que je distingue. Oui. C'est parce que les banques qui font de la banque transactionnelle sans conseiller, il n'y en a pas de rentable. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En Europe, il y a peut-être une. Donc, la réalité, c'est que ça n'a pas trouvé son business model pour l'instant. En revanche, un peu comme certains types de taxis ont poussé d'autres à faire des efforts et à se remoderniser, etc., c'est une incitation pour les banques plus classiques de se prendre en charge, moderniser complètement et d'organiser les mutations, mais tout en gardant l'essence. Et l'essence, c'est la confiance dans la banque. Ouais. Et pour avoir confiance, c'est pas seulement en une machine. Ça aide les machines, mais ça ne remplace pas la confiance.
Ouais, parce que
ça, c'est les gens.
Vous allez même un petit peu plus loin. Vous dites que les banques digitales vont droit dans le mur. On y reviendra parce que vous avez une question d'une alumni sur les banques digitales. Donc, conservez vos arguments.
Hein. Très bien.
Quand même, pour les banques, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un atout. Vous captez toutes nos données, toutes les données de vos clients. Donc, est-ce que c'est un grand atout pour les banques, mais est-ce que c'est pas un peu une menace pour les salariés et puis pour vos clients, pour nous?
Et je ne crois pas. Alors, c'est une question que j'ai eue d'ailleurs de la part de mes salariés. On m'a demandé de la traiter dans une convention avec tout le monde, ce qui était bien légitime. Je ne crois pas. C'est un atout considérable. L'intelligence artificielle, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas intelligente. En réalité, c'est une capacité de traitement des données qui, avec des traitements successifs et de l'apprentissage que nous lui apportons, permet de comprendre des choses que le traitement de la pensée humaine est pas capable de faire, parce qu'il y a, des millions, des milliards de données. Mais ça nous permet de mieux réfléchir. Ça n'empêche pas d'avoir à réfléchir. L'intelligence est ce qui vous donne la confiance, si je peux me permettre deux secondes. Non, mais, ce qui peut permettre de donner la confiance, c'est aussi le fait que cette intelligence, elle soit pas seulement analytique, mais qu'elle soit aussi intuitive, comme disait Kant.
Comment vous stockez toutes ces données? Est-ce que vous avez des algorithmes? C'est quoi le budget, par exemple, de la BRED en R&D
C'est un budget en informatique qui est très important, naturellement, et que j'ai accru au fur et à mesure des années. Parce que il était indispensable qu'on soit au moins aussi bon que les pure players en digital, c'est évident. Mais il fallait parallèlement qu'on ne s'en contente pas. Essayer d'être très bon en digital sans améliorer l'aspect confiance et qualité du conseil, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est un peu aller au mur. Parce que si vous dites... Si des clients peuvent dire « Mon banquier est moins bon que moi dans les domaines que j'ai à traiter avec lui », c'est fichu, il va à ce moment-là aller vers une banque qui n'a pas de conseil, ce sera un peu moins cher. Vincent. Donc il n'y a pas d'intérêt à cela. Nous, on doit capitaliser sur l'intelligence, sur le savoir. On est dans une économie de la connaissance. Ça passe par le mélange entre la compréhension, la formation, l'intelligence des clients, y compris émotionnelle, c'est ça qui va donner la confiance et naturellement l'utilisation des data.
On a vu la progression quand même assez forte de votre chiffre d'affaires, produit net bancaire, comme on dit dans votre jargon. Comment vous avez réussi avec une politique de taux d'intérêt si bas, politique monétaire si bas?
C'est une question fondamentale parce qu'il y a, notamment dans la banque de détail, en France comme en Europe, il y a différents groupes de bancaires qui ont eu des baisses de leurs produits nets bancaires sur les 10 années dernières. Nous, on a augmenté effectivement, ne serait-ce que sur la banque commerciale en France, parce qu'on a de la banque à l'étranger aussi, mais sur la banque commerciale en France, on a augmenté de 50% de notre produit net bancaire, ce qui est un peu différenciant, honnêtement. Mais je crois que c'est l'application de la stratégie. C'est-à-dire qu'il y avait une stratégie qu'on a proposé, dont j'ai parlé, qui était de ne pas réduire le nombre d'agences, mais de modifier la façon dont on travaillait profondément dans les agences. On est arrivé à des agences 100% conseil. C'est-à-dire qu'on travaille tout le digital transactionnel et on travaille tout l'humain en ayant beaucoup segmenté. C'est ça qui nous a fait prendre des parts de marché, nous développer, réussir de façon très différenciante quand même. Donc c'est l'application de la stratégie. Et puis, quand on a une stratégie, il faut savoir l'appliquer bien, savoir l'ingénierie du changement. Et cette ingénierie du changement, précisément, elle est fondamentale. C'est faire des expérimentations, tâtonner un peu avec une vision claire et puis essayer de s'en rapprocher progressivement. Pour l'instant, ça a eu l'air de marcher.
On espère pour vous que ça va continuer. On va marquer une pause, on se retrouve juste après Olivier Klein.
Alors, retour dans l'entretien HEC avec Olivier Klein, le directeur général de la BRED. C'est une séquence savoureuse qui vous attend maintenant parce que c'est un micro-trottoir sur le campus d'HEC.
Est-ce que le mot BRED t'évoque quelque chose?
Non. J'ai vu des sacs avec ce mot écrit.
Je sais le mot que c'est la banque populaire, mais et que c'est une banque très grande, mais pas plus que ça.
Je connais la BRED parce que Olivier Klein, le PDG, est un de mes professeurs. Il me semble que c'est une mutualité, une banque la plus grande en France et qui a beaucoup d'agences en Asie.
En tant que jeune client d'une banque, quelles sont tes attentes et qu'aimerais-tu changer?
Le plus important pour moi, c'est l'expérience utilisateur, une application facile à utiliser et une assistance disponible 24 heures sur 24 pour régler les problèmes. La qualité des services en ligne, c'est très important pour moi. C'est une façon de limiter les déplacements physiques pour réaliser des transactions, échanger de la monnaie, sans l'obligation d'aller à la banque pour signer des documents.
Dans un monde où c'est chaque fois plus difficile d'aller physiquement à sa banque, c'est très important de pouvoir avoir tous les outils dans le téléphone et pouvoir tout résoudre l'immédiat. Ça devient un sujet très critique, surtout pour les jeunes générations.
Les néobanques, justement, de ce côté-là, elles attirent vachement parce que c'est beaucoup plus simple pour nous. Et je pense que c'est ça qui nous rendrait fidèles, peut-être beaucoup plus de facilité et que tout puisse se faire depuis Internet et depuis les applications.
Quel est l'avenir des banques traditionnelles?
Je pense qu'elles existeront encore d'ici 100 ans. Les gens ont plus tendance à faire confiance quand une présence physique existe.
Je pense qu'on aura toujours besoin de quelques agences physiques. Nous sommes humains, nous avons besoin d'interactions sociales.
Depuis le Covid, beaucoup de personnes n'attendent plus seulement des banques qu'elles permettent de déposer de l'argent. Ils veulent aussi investir. Beaucoup de banques proposent maintenant d'investir dans la crypto-monnaie, par exemple.
C'est quand même important d'avoir un interlocuteur pour pouvoir savoir comment placer son argent. Et donc, même nous, qui avons des cours et tout, on ne comprend pas toujours tout. Donc, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui est professionnel, quoi.
Penses-tu que le développement digital des banques entraîne des conséquences sur la sécurité ?
Pas nécessairement. Je pense que la digitalisation, c'est quelque chose de positif. Les problèmes de sécurité sont partout, de toute façon. Personnellement, je me sens plus en sécurité quand je réalise des transactions avec ma carte digitale. Donc, je ne me sens pas en danger. Cela crée des failles qui n'existaient pas auparavant, donc c'est forcément une augmentation du risque. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit stopper la digitalisation du système bancaire.
La Bred, eux, ils ont décidé de faire un pari sur certains pays émergents. Est-ce que tu penses que ces pays émergents, c'est l'avenir aussi des banques ?
Pour donner un exemple personnel, au Mexique, le système bancaire est très différent selon la population et je pense qu'il existe une niche qui pourrait être exploitée. Je pense que l'avenir passe par l'Asie. Ce sont les gagnants de demain et je pense que la stratégie des banques doit passer par là. Je viens d'Asie et je pense vraiment que c'est l'avenir de ce secteur. Beaucoup d'innovations sont en cours. C'est l'endroit le plus peuplé. Pour subvenir aux besoins d'une telle population, il va falloir trouver beaucoup de solutions innovantes. Et celles-ci vont devoir être financées. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas.
Si vous étiez sur le plateau de BFM et si vous aviez Olivier Klein en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui demander ?
Je pense que je vais poser une question sur les actifs fossiles. Comment le secteur bancaire il peut apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
Je peux avoir un bon job en finance quantitative, s'il vous plaît ?
Voilà, c'est les campus d'HEC, comme quoi ça sert des professeurs, parce qu'ils connaissent la Bred, même s'ils sont étrangers, Olivier Klein. Juste une question sur les crypto-monnaies, parce que les jeunes, évidemment, ils s'intéressent beaucoup à la crypto-monnaie. Vous êtes professeur de politique monétaire, vous leur dites quoi par rapport aux crypto-monnaies ? Allez-y, n'y allez surtout pas, et en tant que patron de la Bred, est-ce que vous avez des placements en crypto-monnaie ?
Je leur dis quelque chose qui parfois leur plaît pas, mais j'essaie de l'étayer. Je ne vais pas le faire ici, parce qu'on n'a pas le temps. La crypto-monnaie, pour moi, c'est les crypto-monnaies privées sont fondées sur rien. Donc leur valeur est parfaitement spéculative, 100% spéculative. Donc je ne conseille pas d'aller sur les crypto-monnaies, même si on peut y faire de l'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. À la Bred, nous ne participons pas à la vente de crypto-monnaies.
D'accord, bah au moins ça le mérite d'être clair. Olivier Klein, maintenant, dernière partie, avant la conclusion, où on parlera de votre livre, dernière partie de cet entretien HEC. Là, cette fois-ci, c'est des alumni HEC qui vous ont posé des questions.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Première question de quelqu'un qu'on connaît bien, évidemment, qui a eu une carrière, qui a été banquier aussi, puisqu'il était à la tête du Crédit Agricole. Il a été à la Banque Mondiale ensuite. C'est une question de Bertrand Badré.
Bonjour Olivier, Bertrand Badré, HEC 1989. C'est une joie de te retrouver par écran interposé. Je t'ai eu comme professeur à HEC en 1987, avant la chute du mur de Berlin. Ma question est très simple. Il y a 30 ans, on voyait la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, on voit des tanks en Ukraine. Au moment où le GIEC sort un nouveau rapport sur l'état de la planète et de notre climat, crois-tu que les tanks et le retour du hard power, le retour de la guerre, puissent nous distraire de l'effort collectif que nous entreprenons, société civile, gouvernement, entreprises, secteur financier et bien sûr banques, dans la construction d'une économie qui soit plus durable, plus résiliente et plus inclusive. Merci et j'espère à bientôt en vrai.
Voilà, ça c'est l'engagement très fort de Bertrand Badré. Je vous répondez-y, mais en tant que banquier et non pas en tant que professeur peut-être.
Voilà, il ne faut pas que ça nous détourne. Mais ça ne va pas être très simple parce que quand on consacre beaucoup de moyens éventuellement à parer ce qui arrive... ça va être difficile de ne pas distraire quelques moyens. Cependant, l'augmentation du prix de l'énergie, d'une certaine manière, peut faciliter l'arrivée d'autres énergies. Mais il faudra investir quand même. On n'est pas prêt tout à fait à cela.
Alors, une deuxième question de Josiane Saint-Prix.
Bonjour, Josiane Hante-Saint-Prix, présidente des alumni HEC pour la Caraïbe et la Guyane, chapter Martinique. Je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années. Le crédit est plus onéreux dans les Outre-mer qu'il n'est en métropole. Puisque la BRED a l'ambition de devenir un acteur majeur, voire le premier acteur dans les DROM, voici ma question. Outre le maillage territorial déjà en place, quelle va être la stratégie de la BRED pour faciliter l'accès au crédit pour les TPE et PME et les particuliers, ce qui aurait pour vertu de dynamiser l'économie locale?
La réponse pas facile. Hein.
Oui et non. La réalité, c'est que on n'est pas l'ambition de devenir l'une des premières banques des DOM. On est l'une des premières banques des DOM. On est la deuxième, mais sur les entreprises, probablement première. Donc, on l'est. On finance, et je pense qu'on est la banque qui finance le plus les créations d'entreprises, qui accompagne le plus les petites entreprises, etc. Mais on a aussi toutes les grandes entreprises des DOM. Non, le crédit n'est pas forcément plus cher, ça dépend de la qualité des emprunteurs, tout simplement, et il y a des entreprises qu'on finance exactement au même taux qu'on finance en métropole. Donc, voilà. Deuxièmement, et là, je passe à HEC un petit peu, mais ça en vaut la peine, nous finançons un programme HEC qui s'appelle Programme Stand Up pour les femmes, qui sont dans des milieux défavorisés et qui veulent créer des entreprises. Et donc, on participe à la formation d'HEC par des professeurs d'HEC à ces femmes. On a déjà eu 250 femmes formées grâce au financement de la BRED et à l'accompagnement, parce qu'on ne fait pas que de financer, on les accompagne individuellement également, en plus des professeurs.
Donc, double engagement. Troisième question d'un alumni HEC, je le répète, c'est une question de Jérôme Karkukowski.
Bonjour Olivier Klein, Jérôme Karkulski, gestionnaire financier au sein d'une banque française et président du club Finance et Marché au sein des anciens HEC. Féru de macroéconomie et de politique monétaire, ma question est la suivante. Changement de paradigme au sein des banques centrales, sortie inflationniste de la crise de la Covid, maintenant probable choc d'offres lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les planètes s'alignent pour un retour en force de l'inflation. Comment voyez-vous dans ce contexte l'évolution des taux, de l'immobilier et des bilans bancaires ?
L'évolution des taux d'intérêt me semble devoir être à la hausse. Alors évidemment, avec le fait qu'on ait probablement une stagflation due à la guerre, ce qui n'était pas anticipé en janvier, l'augmentation des taux par les banques centrales sera certainement plus faible qu'attendue dans un premier temps. En même temps, comme on le disait, ça serait très étonnant que les banques centrales ne veuillent pas du tout normaliser leur politique monétaire, à défaut de la durcir davantage, dans un premier temps la normaliser, ce qui va quand même faire monter les taux. Si les banques centrales, j'en finis là, si les banques centrales ne montaient pas leurs taux, on aurait peut-être les marchés qui déborderaient les banques centrales, parce qu'elles manqueraient alors de crédibilité, ces banques centrales, et les taux longs pourraient filer à la hausse de façon dangereuse. Donc je pense qu'il y a un chemin d'équilibre un peu étroit. Ça va être compliqué de toute façon de remonter les taux sans casser, et en même temps il faut les remonter, sinon ça va être pire.
Alors la prochaine question vient d'un alumni un peu spécial, parce qu'il est HEC et journaliste, comme d'aucuns, effectivement, personne n'est parfait, c'est Thomas Lestavel.
Olivier Klein, bonjour, je m'appelle Thomas Lestavel, je suis journaliste. Ma question porte sur la condamnation il y a 2 ans de la BRED. L'AMF avait infligé une amende de 500 000 euros à la BRED pour non-respect d'une réglementation sur les échanges de produits dérivés de gré à gré. Je voulais en savoir un peu plus, qu'est-ce qui avait péché à l'époque au niveau des procédures et qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à la situation? Et plus généralement, en quoi peut-on avoir davantage confiance aujourd'hui dans les banques qu'il y a quelques années? Merci beaucoup.
Les deux questions sont quand même totalement dissociées. La première est à dissocier. La première, c'est la condamnation d'il y a 2 ans, qui en réalité s'est soldée par quelque chose d'assez faible quand même. Et pourquoi ça a été assez faible de la part de l'AMF? C'est parce que c'était une nouvelle réglementation.
Faible, c'est quoi?
Très pointu, c'était 500 000 euros. Mmh. Et ça portait sur une nouvelle réglementation, très pointue sur les échanges, sur des catégories d'opérations faites entre des salles de marché elles-mêmes, avec des grands clients. Donc c'est très très pointu. On avait respecté totalement l'esprit, on n'avait pas toujours été à jour au moment où il fallait enregistrer certains types d'opérations, -1% de ce qu'on faisait, -1%. Au total, ça a été jugé comme une réglementation qui était compliquée, on a fait les frais, mais c'est normal, il faut bien qu'il y en ait un, d'être les premiers à passer, à être contrôlés. Ils ont choisi la Bred pour contrôler sa salle des marchés, mais honnêtement, personne n'était bien prêt. Et nous, on avait fait ce qu'on pouvait pour bien comprendre. Il a fallu qu'on décrypte avec l'AMF quand même la réalité de ce qui était demandé. Il fallait une interprétation de la réglementation. C'est pourquoi je le dissocie de la deuxième question. Comment peut-on avoir plus confiance dans les banques ? N'a pas grand-chose à voir avec cette affaire qui était toute petite, sincèrement, qu'on a pris très au sérieux. Très au sérieux, parce qu'il faut de toute façon respecter les réglementations, même quand on est obligé de les interpréter, parce qu'elle était compliquée. Mais on peut avoir confiance dans les banques, notamment en Union européenne, c'est extrêmement réglementé, bien réglementé. La meilleure preuve que j'en donnerai, elle durera 30 secondes. Lors de la crise financière très grave, mais éclair, qui a eu lieu en mars 2020, mm-hmm. au moment où on a compris qu'il allait y avoir les confinements, etc., ce ne sont pas les banques qui ont flanché. Ce ne sont pas les banques. Les banques ont bien résisté, ce qui est quand même une preuve qu'elles sont bien réglementées.
Une petite question. Qu'est-ce que vous risquez si jamais vous ne respectez pas les sanctions contre des entreprises ou des clients russes ?
Alors ça peut être grave, parce que ça dépend d'où vient la sanction. Mais quand c'est une sanction... Enfin, ça dépend d'où vient la réglementation. Si c'est une réglementation américaine, comme vous le savez, si on traite en dollars, on est obligé de les respecter, parce que sinon, on est pénalisé par le fait qu'on traite en dollars. Donc, on fait toujours extrêmement attention à cela. Il y a quelques grandes banques, malheureusement, qui, on le sait bien, ont été lourdement sanctionnées.
Donc, mais là, par rapport à la décision qui a été prise par l'Europe et par la France.
Et là, les décisions par l'Europe, oui, l'Europe en général, d'ailleurs, et la France en particulier, évidemment, on est absolument attentif à tout de la même manière. Et je vous le disais tout à l'heure,
chaque jour, on adapte... Ça serait une sanction financière.
Ça serait une sanction financière.
Pour
n'importe quelle banque. Ça peut être très grave. Et puis, c'est une sanction, éventuellement, en termes de réputation. Donc, ça peut être très grave. Et ça n'a rien à voir avec le petit cas très spécifique de tout à l'heure. Mais là, c'est beaucoup plus...
Une précision.
Bien sûr. Et il faut faire attention à tout, quoi qu'il arrive.
Une question maintenant d'Alexandra Prigent qui revient un petit peu, vous allez voir, sur les questions digitales, mais c'est normal, c'est un des thèmes quand même très fort dans votre secteur.
Bonjour, Alexandra Prigent, Managing Partner chez Accelency, cabinet de conseil en relations investisseurs spécialisé pour les sociétés technologiques. Ma question est la suivante: quel est l'impact sur vos façons de travailler, sur vos business models, sur vos prévisions stratégiques de la montée et du grand succès des néobanques? Nous avons deux grands champions en France, United, le leader du crédit instantané, mais aussi Conto, qui monte très fort au service des PME. Donc, quel est l'impact sur la façon dont vous travaillez et quels sont les impacts à venir que vous anticipez sur votre business économique ?
L'impact en termes de business pour nous est très faible. En réalité, on ne les sent pas beaucoup. Bon, ça peut changer. On est très prudent. L'impact dans notre façon de travailler est réel. Comme je le disais tout à l'heure, même les néobanques pour les particuliers...
Mais Conto, par exemple, vraiment... c'est pour les TPE, ça cartonne. Hein, donc ça peut quand même vous challenger.
Peut-être. Pour l'instant, ça, rien ne remplace la relation humaine, appuyée sur de la compétence, des data, etc. Donc, notre façon d'y réagir, en réalité, c'est à chaque fois de comprendre ce qui fait leur originalité, leur innovation, de l'intégrer et de compléter à chaque fois par l'indispensable relation humaine de qualité à valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on y répond. Et plus on globalise le besoin, plus on globalise les besoins des clients, moins on se fait des intermédiaires. Ouais. Et c'est ça le fondement de la stratégie.
Je précise que c'est vous qui évoquiez le fait qu'elles allaient droit dans le mur. Hein. Ce n'était pas un jugement de valeur de mon côté.
Dernière question de
Jérémy Guez.
C'est une pirouette presque, hein, plus qu'une question.
Bonjour, je suis Jérémy Guez, professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris, et puis accessoirement ou pas tant que ça, l'ancien étudiant d'Olivier. Alors Olivier, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis très très longtemps. Dites-moi une chose, pour être un bon banquier, est-ce qu'il faut être un bon prof ?
C'est une bonne question.
Pas comme question.
Oui. En réalité, je dirais que pour être un bon banquier, c'est bien d'enseigner. Et pour être un bon enseignant, c'est bien de pratiquer aussi. Alors, il y a des enseignants qui ne pratiquent pas, c'est bien normal. Il y a des chercheurs purs, et il en faut, c'est absolument nécessaire. Mais il y a aussi besoin de catégories d'enseignants qui sont fort conceptuellement, en théorie, etc., mais qui, en même temps, ont une pratique qui permet de questionner la théorie, mais aussi, éventuellement, de questionner la pratique par la théorie. Et donc, moi, ça me sert des deux côtés, et nombre de fois, ça m'a aidé, notamment parce que j'enseigne la macroéconomie financière, les crises financières, les cycles financiers, ça m'a aidé à anticiper un peu les crises et à m'en sortir un peu mieux, enfin, à sortir la banque que j'avais à diriger, nettement mieux que si j'avais pas été professeur. Donc, oui, pour moi-même, ça m'aide énormément, d'être dans les deux côtés.
Ben voilà, comme ça, la réponse à Jérémy Guez, votre étudiant.
Excellent étudiant.
Excellent étudiant, j'imagine. Olivier Klein, on arrive au terme de cet entretien HEC. Maintenant, on passe à la conclusion. On va parler de ces petites leçons bancaires.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
J'aurais peut-être juste, avant de parler de ces petites leçons bancaires, on en a déjà eu quelques-unes, hein, si je puis me permettre, monsieur le professeur, on n'a pas du tout parlé d'Asie. C'est un point important pour le développement de la Bred. La Bred qu'on voyait plutôt en région Île-de-France, on a vu maintenant que vous étiez aussi dans les DOM. Et en Asie, qu'est-ce que vient faire l'Asie dans la stratégie de la Bred?
Et on est aussi en Normandie, oui. Ne pas l'oublier. Et un peu en petit Picardie. Alors, on est en Asie,
un peu plus près que l'Asie.
On est en Asie et dans le Pacifique. On a une petite dizaine de banques qu'on essaie de développer et qu'on développe bien. L'année dernière, ça a progressé quand même de 25% dans leur PNB, ce qui est quand même remarquable. Alors, pour moi, et je partage assez bien certains avis d'étudiants qui ont été cités tout à l'heure, une partie du monde se déplace vers l'Asie-Pacifique. Et c'est important pour nous de pouvoir développer des banques. Alors, on n'est pas dans des très grands pays, très matures en banque. Hein. On est dans des pays émergents. Alors, on est au Cambodge, ouais. On est au Laos. Mais le Cambodge, ça se développe très fort et très bien. Et en 17 millions d'habitants, on regarde le Vietnam.
C'est une stratégie de niche, là où il y a les entreprises françaises, c'est ça?
Non. C'est une stratégie d'être dans un marché qui à la fois n'est pas mûr bancairement parlant. Donc, il y a encore que 30% de gens bancarisés. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Dans lesquelles les banques locales sont bonnes, mais pas toujours. Nous, on a une valeur ajoutée à apporter sur les PME, sur les entreprises, le corporate, on le fait, et des entreprises à forte et des pays à forte croissance. Donc, c'est très intéressant cela.
Ouais. Alors moi,
pardon, juste Vincent, une demi-seconde pour dire que sur les 6000 personnes qu'on a, on a 2000 personnes qui ne sont pas en France. Ni dans les DOM, naturellement. Ni en France, ni en métropole, ni dans les DOM.
Alors moi, j'utilise votre bouquin pour relancer cette conclusion.
Il faut donner le titre.
Donc, effectivement, crise et mutation, petite leçon bancaire, mais ça commence fort parce qu'il y a une citation de Nietzsche, « Nous apprenons trop, mais ne pensons pas assez ». C'est pas mal pour un prof, quand même, de dire ça.
Oui.
Et alors, notamment, il y a dans le bouquin une réflexion sur le capitalisme actionnarial où vous mettez en avant effectivement les dangers du capitalisme actionnarial.
Les effets néfastes.
Alors,
même.
Est-ce que c'est parce que vous appartenez à un groupe coopératif ou est-ce que c'est le prof qui pense sincèrement qu'il y a des effets négatifs à notre capitalisme actionnarial?
Oui, c'est le professeur. Et c'est la personne qui essaie de réfléchir à l'histoire longue. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on est passé d'un capitalisme familial du 19e, début du 20e, à un capitalisme progressivement managérial, parce que les familles, pour l'essentiel, ont eu besoin de liquider un peu de rendre liquide leur actionnariat, parce que les familles se développaient, les entreprises se développaient. Il a fallu passer à un capitalisme par action, mais dans lequel, après-guerre, c'est les managers qui ont pris le pouvoir. Et puis ensuite, comme le capitalisme managérial a certainement passé assez bien servi les actionnaires, le capitalisme managérial s'est transformé dans les années 80 en capitalisme actionnarial. Et quand je dis actionnarial, je n'ai rien contre les actionnaires, au contraire, c'est une partie prenante. Il faut les respecter, ils mettent de l'argent en risque, il faut les rémunérer. Mmh. Et ça, il faut bien le comprendre, y compris en France, parfois ouais. C'est parfois difficile. Mais il faut les rémunérer, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, le capitalisme actionnarial, comme le capitalisme managérial avait eu ses dérives, le capitalisme actionnarial a eu ses dérives. Ces dérives ont été naturellement le fait d'avoir des managers qui parfois réfléchissaient plus à la façon de s'enrichir à 2 ans que au long terme de l'entreprise, et avec toutes les dérives qu'on a connues sur les marchés financiers. Les marchés financiers sont indispensables, ils sont tout à fait utiles. La question simplement, c'est que l'entreprise réponde bien à l'ensemble de ses parties prenantes, aux actionnaires, c'est indispensable, ils prennent des risques, mais aussi aux salariés, qui d'une manière ou d'une autre prennent des risques, mais pas de la même manière, et naturellement aux fournisseurs, évidemment au client. Et pourquoi simplement le capitalisme mutualiste, car c'est aussi du capitalisme, mais mutualiste comme nous le faisons, est un élément mais un élément parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres formes possibles. C'est parce que nos clients sont nos sociétaires. C'est eux qui possèdent le capital de nos banques. Et donc, ils sont au conseil d'administration. Alors, et donc, on est forcément intéressés par les clients.
Olivier Klein, il nous reste zéro seconde quand même. Vous dites, la fascination de la disruption n'est pas bonne conseillère. Mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas un banquier qui est un peu trop classique aujourd'hui pour une période disruptive? Ça sera le mot de la fin.
Faites des comparaisons sur les résultats. Depuis 10 ans, on verra si c'est pas trop classique. Non, je pense qu'on a beaucoup organisé de mutations à la Bred, énormément même. Simplement, en essayant de respecter l'essence de ce qu'était une banque et en utilisant comme une opportunité toute la novation qui venait de la révolution technologique et du changement des clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a intégré toutes ces nouvelles technologies, on continue de le faire, hein, il y a beaucoup pas encore à faire, au service des clients, mais au service aussi des meilleures efficacités de la banque.
Mais
sans jamais
ça...
avoir nuit à l'essence même.
Puisqu'on est à l'entretien HEC, est-ce que ça vous fait de la Bred une banque plus attirante pour les étudiants?
Alors, c'est-à-dire pour les nouveaux clients, c'est ça que vous voulez dire, pour les
non,
jeunes
je
clients
veux dire pour, non, les, pour les futurs les collaborateurs.
Ah oui. Bien sûr, parce que non mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on attire, parce que on ne ferme pas, parce qu'on se développe, parce qu'on a un parcours de développement, de dynamique.
Vous avez un projet,
un vrai projet, et en même temps évidemment un ADN d'entrepreneuriat très fort au sein même de la banque, ce qui va bien aussi avec HEC.
Ça sera le mot de la fin. Bravo, merci Olivier Klein.
Merci à vous deux.
Vincent,
merci.
On se retrouve le mois prochain pour un prochain entretien HEC.
L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.